Chapitre 23. Ce qui restait du palais des prophètes, à savoir pratiquement rien, attirait Verna et la répugnait. Après 3 000 ans de bons et loyaux services, le complexe avait été rasé comme tout ce qui se trouvait sur l'île. Mais l'idée de retrouver quelques rares vestiges avait suffi pour lancer la dame abbesse dans un long et périlleux voyage. Même si le monde changeait, à l'instar des règles que les sœurs de la lumière suivaient depuis si longtemps, Verna continuait à chercher des réponses, ou au moins les bonnes questions à poser. Tout ça l'attendait peut-être ici. Après tout, et bien que ça ne vaille plus dire grand-chose, elle restait la dame abbesse des sœurs de la lumière. Après son arrivée à Tanimura et son passage dans la garnison, elle aurait pu aller immédiatement sur l'île Kolet pour voir de quoi il retournait. Mais elle avait décidé de prendre un jour de repos, non sans en profiter pour contacter les 10 sœurs qui l'avaient précédée en ville. Très probablement, ces femmes étaient en train de se lamenter sur leur ancien foyer. Alors que les soldats d'Aran s'échinaient à construire des baraquements pour les renforts présents et à venir, le général Zimmer avait déjà affecté aux sœurs une série de bâtiments. Touchée par l'attention, Verna avait investi ses nouveaux quartiers, mais les autres sœurs, selon elle, avaient tout intérêt à trouver un logement en ville. Depuis des millénaires, les sœurs de la lumière étaient hautement respectées à Tanimura. Sans nul doute, quelqu'un devait garder d'elles un souvenir ému. Cela dit, les sœurs de l'obscurité avaient semé le trouble partout. Navires sabordés, ports à demi détruits. Et lors de la destruction du palais, la magie soustractive avait provoqué des dégâts collatéraux inédits à Tanimura. Depuis, l'île était déserte. Mais il restait peut-être quelque chose. Oui, peut-être. Le soir, Zimmer avait invité Verna à dîner. Elle avait refusé poliment, consciente que le capitaine Horcross devait faire son rapport au général. Un long développement sur la situation au Palais du Peuple et sur la renaissance de Dara après la fin du conflit dans les Terres Noires. L'heure était à la guérison des plaies, à l'expansion et à la célébration de la mémoire des victimes. Après avoir retrouvé les 10 sœurs, Verna s'était entretenue avec elle jusqu'aux petites heures de la nuit. Pourtant, au matin, elle s'était réveillée en pleine forme. Attirée par les vestiges du palais, elle avait décidé de ne plus remettre au lendemain ce qu'elle pouvait faire le jour même. Les autres sœurs ayant déjà fait le pèlerinage, individuellement ou en groupe, elle explorait les ruines seule et tant pis si elle ne trouvait rien. Bien sûr, de bonnes âmes avaient tenté de la décourager.
« Dame abbesse, nous avons déjà cherché, » avait dit sœur Rhoda. « Il n'y a rien, vous allez vous briser le cœur, c'est tout. »«
Vraiment, » avait renchéri sœur Eldine. « Il ne reste rien d'utile, mais vous repenserez à tout ce que nous avons perdu. »«
Mon cœur est déjà brisé, et justement j'ai peut-être besoin de me rappeler tout ce que nous avons perdu. Quoi qu'il en soit, il faut que j'y aille, c'est un devoir sacré. » La novice Ambre, jeune sœur du capitaine Horcross, s'était montrée avide de passer du temps avec la dame abbesse. Devinant qu'un peu de compagnie ne lui ferait pas de mal, Verna avait décidé de l'emmener. Ambre et moi, « personne d'autre », avait-elle tranché. Bien que convaincue qu'il n'y avait rien à trouver, les sœurs avaient rendu les armes. Dès l'aube, Verna et la novice avaient quitté la garnison, traversé la ville, puis franchi le grand pont qui enjambait les 2 bras du fleuve Kern juste avant qu'il se jette dans la mer. Concentrée sur sa mission, Verna avait à peine remarqué les gens en couleur vive dans les rues et les étendards d'Aran ornés du R stylisé pour le nom Ral qui flottaient sur toutes les hauteurs. Chez la jolie Ambre, quelque chose rappelait à Verna sa propre fille, Laetice, du moins quand elle était jeune. En des temps très reculés, l'enfant était né de l'union officieuse entre sa mère et le sorcier Jedidia. Un passé si lointain que Laetice était morte de vieillesse alors que Jedidia avait péri à cause de sa félonie. Malgré tout, Verna avait continué. Aujourd'hui, elle n'aurait su dire qui elle était. Avec un peu de chance, elle l'apprendrait ici. Dans la rue des Tisserands, les 2 femmes passèrent devant un grand étalage de rouleaux de tissu, de la simple laine à la soie la plus rare en passant par le coton teint. Alors qu'Ambre tentait de regarder partout à la fois, sa supérieure continua à fixer un point très lointain devant elle.
« Pourquoi t'es-tu jointe à nous, ma fille ? » demanda-t-elle.
« Parce que c'était mon rêve, dame abbesse. » En travaillant dur et en ne reculant devant aucun sacrifice, j'espère être digne de notre ordre.
Je sais déjà que ton cœur est pur, petite.
Mais avec la disparition des prophéties, notre enseignement est privé de presque tout son sens, et je ne suis pas sûr de ce que l'ordre peut apporter.
Nous nous concentrions tant sur les prédictions.
À une intersection, les deux femmes s'arrêtèrent pour laisser passer un couple de cavaliers bien mis. L'homme toucha le bord de son chapeau à l'intention de Verna, un signe de respect, mais comment l'avait-il reconnu?
Les sœurs sont vénérées, dame Abbesse. Toute ma vie, j'ai aspiré à vous rejoindre. Maintenant que je suis là, je ne renoncerai pas à mon rêve.
Et si ce n'était qu'un rêve, justement?
À mes yeux, les sœurs sont bien réelles.
Verna sourit à la novice.
Et nous sommes ravis de t'avoir.
Une fois à la périphérie de la ville, là où le fleuve faisait un grand lacet, Verna revit enfin de près l'île Collet.
Je me croyais préparée, dit-elle le cœur serré. Mais on ne l'est jamais vraiment.
Lors de la destruction du palais, une toile de lumière dévastatrice, tous les ponts avaient été vaporisés. Quant à l'île, on eût dit qu'une main géante l'avait écrabouillée avant de balayer au loin les débris. Coupée du reste de la ville, l'île était entourée d'une eau boueuse sans rapport avec l'onde verte limpide de jadis. De ci de là, de gros blocs de pierre en émergeaient, synonymes de danger pour les bateaux. Pourtant, des barques de pêcheurs évoluaient au ralenti sur ce désastre liquide.
« Comment allons-nous traverser ?»
demanda Ambre. Écartant des buissons ratatinés pour se frayer un chemin, Verna s'engagea sur la pente qui menait à la berge.
« Un des pêcheurs nous prendra dans sa barque. Je suis toujours la dame Abbesse et je doute qu'on me refuse ça. »
Arrivée au bord de l'eau, Verna agita une main pour attirer l'attention des pêcheurs. Quand Ambre s'y mit enfin, avec plus d'énergie et en criant, un jeune pêcheur se hâta d'approcher. À l'évidence, la novice l'intéressait beaucoup plus qu'une dame Abbesse entre deux âges. Quand il accosta, Verna vit que quatre poissons-chats reposaient à ses pieds, le crâne brisé mais les moustaches encore frémissantes.
« Vous devez avoir sacrément envie d'un festin à base de poissons-chats. Venir jusqu'ici pour m'acheter ma pêche alors que je suis tous les jours au marché. Que puis-je pour vous, mesdames ?»
« Ce ne sont pas les poissons qui nous intéressent, mais votre barque. Nous conduiriez-vous sur l'île ?»
Le jeune homme se rembrunit.
« Personne n'y va.
Dans ce cas, nous devrons nager. »
Troublé, le pêcheur se tourna vers Ambre.
« Vous voulez vraiment y aller ?»
À ses pieds, un des poissons bougea. Ramassant une massue, le jeune type lui en fit passer l'envie pour toujours.
« Oui, nous sommes décidés, » répondit Ambre. « J'accompagne la dame Abbesse et nous entendons explorer les ruines du palais des prophètes. »«
Ce sera vite fait parce qu'il ne reste rien. Une nuit j'y suis allé, c'est un endroit très moche. »«
Un lieu lourd de signification historique, plutôt, »
corrigea Verna.
« Et très cher à mon cœur. »« Vous voulez bien nous y conduire ?»
insista Ambre.
« Bien sûr. »
Verna prit place sur l'unique banc de la petite embarcation. Restant debout, Ambre bavarda avec le jeune pêcheur durant la courte traversée. Quand la barque eut atteint la rive opposée, Verna sonda l'île et ne vit rien du tout.
« Vous désirez que je vous dépose à un endroit particulier ?»
demanda le pêcheur vaguement inquiet.
« Esprit bien-aimé, je doute que ça fasse une différence, » répondit Verna. « Droit devant, ça ira très bien. »
Alors qu'Ambre sauta sur la terre ferme sans problème, la dame Abbesse dut lutter pour ne pas perdre l'équilibre.
« Comment retournerons-nous en ville ?»
demanda la novice.
« Je viendrai vous chercher, »
proposa son chevalier servant. Ambre le gratifia d'un sourire enjôleur.
« Et nous vous en serons éternellement reconnaissantes. Mais comment vous contacter ?»«
Revenez simplement ici quand vous en aurez terminé. Je ne m'éloignerai pas et je vous guetterai. »
« Une bonne solution, »
fit Verna avant d'entreprendre l'ascension de la berge rocheuse. Après un petit au revoir de la main au jeune homme, Ambre lui emboîta le pas. Alors que des cailloux grinçaient sous ses pas, Verna arriva les yeux devant elle. Des larmes perlant à ses yeux, elle prit garde à ne pas se tourner vers Ambre, qui risquait de la bombarder de questions si elle la voyait pareillement émue. Ces derniers temps, Verna n'avait plus le cœur de répondre aux autres. Et elle ignorait si l'envie lui en reviendrait.
« Tu es bien trop jeune pour te souvenir de cet endroit, » dit-elle à Ambre. « Construit par des sorciers il y a 3000 ans, avant les grandes guerres et l'apparition de la barrière, Le palais des prophètes comptait parmi les plus grands édifices de l'ancien monde. J'y suis arrivé bien longtemps après tout ça, simple novice comme toi. Ma formation terminée, je me suis mis à enseigner comme il se devait. Nous avons aidé tant de jeunes sorciers. Ignorant comment contrôler leurs dons, ils souffraient de terribles maux de tête et finissaient par mourir si on ne faisait rien. Le seigneur Hall était du lot, je crois.
Oui. J'ai passé des dizaines d'années loin du palais afin de le trouver, puisqu'une prophétie nous avait appris sa naissance.
Verna porta une main à ses cheveux grisonnants. Être loin du sort anti-vieillissement m'a coûté une bonne partie de mon espérance de vie. Sans cette errance, Verna le savait, elle aurait encore eu l'air jeune et en pleine santé.
Mais je ne regrette rien,
souffla-t-elle.
Qu'avez-vous dit, dame Abbesse?
Surprise, Verna revint au présent, puis regarda autour d'elle, accablée de découvrir une plaine déserte.
Rien d'important. Il faut continuer à chercher, et surtout voir si nous trouvons un accès au sous-sol. Les catacombes sont peut-être encore intactes, au moins une partie. Je sais qu'une bibliothèque secrète existait sous le palais, un site central. Nathan et Anna m'ont parlé de son existence, mais trop tard. Si Jagang avait mis la main sur ses connaissances...
Verna secoua la tête.
Oui, éviter ça valait la peine, même à un tel prix.
Les deux femmes passèrent le terrain au peigne fin, glissant sur des cailloux et des débris que nul n'avait plus dérangés depuis des années. Unissant leurs forces, elles soulevèrent des blocs de pierre aux arêtes étonnamment lisses parce que le matériau avait fondu au lieu d'être brisé. À un moment, Ambre se prit le pied dans un trou et manqua à basculer en avant, mais Verna la retint par le bras, lui épargnant de se fouler une cheville, voire de la casser. Soulagée, la novice épousseta sa robe en soupirant. Dans un autre trou, sous deux blocs de pierre qui se chevauchaient, les deux femmes découvrirent une figurine en céramique verte, représentant un crapaud aux yeux jaunes comiquement gros, qui souriait comme un humain. De sa vie, Verna n'avait jamais vu cet objet. Pourtant, elle le ramassa avec respect et l'exposa à la lumière du soleil.
« Il est mignon comme tout !» s'exclama Ambre. « Comment a-t-il pu rester intact? C'est un miracle !»«
Non, un hasard et un coup de chance. »
« Selon vous, c'est un puissant artefact?
Vous pensez qu'il était à la dame abbesse Anna ?»
La novice se pencha mais n'osa pas prendre la figurine à Verna.
« C'est plus probablement un bibelot qui appartenait à une sœur. »
Verna passa le pouce sur le dos vert du crapaud. Même si elle n'avait aucune importance réelle, la figurine prenait un sens à ses yeux parce qu'elle avait survécu à la destruction du palais. Comme elle. Encouragées par cette découverte, les deux femmes poursuivirent les recherches, mais sans savoir où regarder. Dans ce désert, Verna ne parvenait même pas à reconstituer la position des tours ou celle du mur d'enceinte. Aucun trou ne donnait accès au sous-sol, en tout cas, pas sans déblayer des tonnes de débris. À l'évidence, l'île avait bien été écrabouillée, ses secrets à jamais perdus. Bien qu'il n'y ait aucune illusion à se faire sur le résultat final, Verna et Ambre s'acharnèrent encore des heures. Pourtant, la dame abbesse tenait depuis un bon moment la réponse qu'elle était venue chercher. Les grimoires, jalousement gardés dans les catacombes, avait-elle compris, n'étaient plus que des analyses et des gloses sur un monde qui avait irrévocablement changé. Quand Richard leur avait offert un endroit où vivre, les noms détenteurs du don étaient partis et la magie, pendant un temps, s'en était trouvée renforcée. Mais le changement stellaire avait de nouveau bouleversé la donne. Si les détenteurs du don restaient dominants, les règles de la magie avaient changé, certaines faiblissant, d'autres gagnant en puissance, mais toutes s'altérant de manière imprévisible.
« Je crains que nous devions tout redécouvrir à partir de zéro, »
dit Verna.
« Tout ce que nous pensions savoir. »
Bizarrement, Ambre eut un grand sourire.
« Ça signifie que les sœurs de la lumière ont un grand avenir devant elles, pas vrai ?»
Verna sursauta, réfléchit. Et sentit un poids écrasant s'envoler de sa poitrine. Quand elle inspira, l'air lui sembla soudain plus frais.
Tu pourrais bien avoir raison, mon enfant.
Une fois revenues sur la berge, les deux femmes repérèrent sans peine le jeune pêcheur.
Ce soir, dit Verna, nous aurons du poisson-chat au dîner.